Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur Art Appliqué, le podcast pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interviewe des experts marketing et growth pour parler de leurs expériences et voir avec eux la façon dont ils appliquent le framework art. Dans cet épisode, on va parler du marketing pour un stand-up. Un humoriste est un artiste, mais avant tout, un produit de divertissement qui crée une communauté. Il y a donc de grandes chances que les méthodes growth marketing s'appliquent aussi pour lui. Se faire voir pour l'acquisition, donner envie aux gens de vous suivre en guise d'activation, rester en contact, la rétention, le bouche à oreille pour la recommandation et le revenu quand ils achètent une place de spectacle.
Ouais, c'est une onomatopée. Ah ! Le fait d'être dans la tendance, c'est déjà que tu peux potentiellement être pas complètement dans le vrai. Mais dans une espèce d'imitation ou de vague dans laquelle tu t'engouffres et t'es un peu un suiveur. Mais généralement, non, c'est que des niches. Et tous les succès se font sur des niches aujourd'hui. Donc, vouloir toucher tout le monde, c'est une erreur. C'est une erreur. J'ai créé un numéro WhatsApp et je demande aux gens à la fin de mes spectacles, donc des vrais gens, je leur dis, j'ai un numéro WhatsApp, je vous le donne, vous m'écrivez. Je vais dire identification, donc tu peux ajouter un I à ton A. Et ça fait Aïa.
Karim Duval est un humoriste que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux avec ses vidéos où il se moque de la génération Y, du monde des startups, des anglicismes, etc. Et pour cause, Karim était ingénieur informatique et faisait du code avant de se lancer dans le stand-up. Il connaît donc bien l'univers dont il parle. Dans cet épisode, avec Karim, on analyse les mécanismes qui régissent le monde du stand-up et son marketing. Proposer un stand-up différenciant sur un marché saturé, trouver son truc, savoir où trouver son audience pour la toucher, comment l'accrocher, comment la faire grossir, comment la fidéliser. Cet entretien est très surprenant car vous verrez que les méthodes des humoristes pour répondre à ces problématiques sont très très proches des méthodes growth marketing. Un épisode très particulier qui pourra sûrement vous donner des idées et vous aider à penser un peu plus out of the box. Instant promo, j'en profite pour vous dire que je développe une chaîne YouTube à mon nom où je réalise entre autres des études de cas marketing et growth. Allez y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Et bien sûr, abonnez-vous à ma newsletter sur le site yannleonardi.com. Je fais pour vous une veille growth marketing et bien sûr, je vous préviens à la sortie d'un nouvel épisode. Le marketing de stand-up, on en parle tout de suite. C'est parti. Je reçois aujourd'hui dans le podcast Karim Duval. Salut.
Salut.
Alors Karim, tu es humoriste en ce moment, tu es en tournée dans toute la France et Paris jusqu'au mois de mai avec ton spectacle Y, du Y de Génération Y.
J'espère ne pas être humoriste que en ce moment, mais oui, je suis humoriste en ce moment.
Alors tu n'es pas que humoriste d'ailleurs, on va en parler bien sûr. Alors tout le monde a vu passer tes vidéos sur les réseaux sociaux, vidéo où tu égratines un peu la Génération Y, la Startup Nation, l'utilisation excessive d'anglicisme, et d'ailleurs tu vas voir que je vais en faire pas mal. Dans cet entretien.
Je te propose que tu essaies de ne pas en faire pendant le podcast.
Eh bien, j'ai prévu des versions françaises de tous les mots.
Super, ouais. ça fait des sessions. C'est un petit exercice. Culturellement, c'est intéressant.
On va essayer en tout cas. Alors, pour faire le pont entre ton activité et le sujet du podcast, je vais planter un peu le décor quand même. Alors, le but de ce podcast, c'est d'étudier toutes sortes d'activités commerciales au travers du prisme de ma discipline, à savoir growth marketing.
Ouais, donc le...
Alors, la commercialisation suivie de croissance.
De la croissance. Ah, suivie de croissance. Ouais,
c'est ça que j'ai trouvé. J'ai pas passé beaucoup de temps à chercher non plus. Alors, on peut jouer à Explique ton job, un truc que tu fais dans tes spectacles, où tu vas demander à des gens dans le public d'expliquer leur taf.
Ouais, c'est un petit moment du spectacle que j'aime bien, ça.
Ouais, tu tombes sur des UX designers, des trucs comme ça.
Ouais.
C'est quoi le plus marrant sur lequel tu
Le plus marrant que j'ai eu, là, j'ai eu adjointe pastorale. La meuf, elle anime des débats dans des lycées catholiques.
C'est pas très Startup Nation, du coup.
Non, pas trop. Non, samedi, j'ai eu quoi? J'ai eu un pilote de projet en aspirateur de fumée de soudure. Ça ne s'invente pas. C'est pas très gros ce marketing non plus, mais voilà, j'adore. Je suis à la recherche de ça et j'aime ce moment d'improvisation dans mon spectacle. J'essaie de demander aux gens d'expliquer ce qu'ils font. Le mec, il utilisait des gestes et tout, et il n'y arrivait pas.
Alors du coup, marketing, ça tout le monde voit ce que c'est historiquement c'est de l'acquisition.
J'aimerais bien t'avoir dans mon spectacle, c'est-à-dire que si tu me dis je fais du gros marketing, je te dis déjà explique-nous ce que c'est le marketing et tu me dis c'est de l'acquisition, bonheur, déjà on met une vidéo, tu vois, ouais, et bam,
attends,
derrière,
j'ai pas fini,
c'est repartagé hein. Et boum, on fait
j'ai pas fini,
gros marketing.
Donc l'idée ici, c'est de pas faire que du marketing, c'est de suivre l'expérience client ou utilisateur pour augmenter, in fine, le revenu. Et pour ça, on utilise un framework, donc un modèle qui s'appelle... Art. Alors, art, ça veut dire acquisition, activation, rétention, recommandation et revenu.
Ouais, c'est une onomatopée. Ah !
Exactement. Et le tout fait une boucle vertueuse, évidemment, parce que la recommandation repart sur l'acquisition.
Donc c'est acquisition, attends, j'essaie de m'en souvenir. Acquisition.
Activation.
Activation.
Rétention.
Rétention.
Recommandation.
Recommandation.
Et revenu. Mais c'est pas forcément dans l'ordre chronologique d'ailleurs.
D'accord, ah oui, ok.
Alors tu vas voir où je vais en venir, parce que pour moi, un stand-up, bah, c'est un produit de divertissement. Évidemment, ça obéit à ces règles, parce que acquisition, bah, c'est être vu. Activation, c'est captiver les gens, leur donner envie de te suivre, sur les réseaux sociaux notamment. Rester en contact avec eux, la rétention. Et avoir du bouche à oreille, la recommandation.
Revenu, et le revenu, ça, c'est quand ils payent. Ça, c'est le but de la vie.
Exactement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir ta perception de l'activité d'humoriste, je voudrais qu'on en sache un peu plus sur toi. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut rire de tout ? Non, je rigole.
La question.
Je voulais juste.
Bon, ben salut, je m'en vais.
Je voulais juste la poser parce que j'adore cette question.
Est-ce qu'on peut rire de cette question ?
Parce qu'à chaque fois, je vois la tête des humoristes.
Est-ce qu'on peut en rire un peu ? Parce que c'est tellement.
Et je vois leur tête à chaque fois.
C'est tellement tarte à la crème.
Il faut que j'arrive à la poser cette question.
Mais là, non, mais oui, oui.
Mais là, j'ai raté parce que je voulais rester sérieux, tu vois. Et j'ai pas réussi.
T'as craqué, c'est bien. T'as craqué suffisamment vite pour que tu montes très très haut dans mon estime, très vite. Donc merci.
Alors, donc au début, tu es diplômé de l'école centrale et tu avais un métier, je suppose, ennuyant à Sophia Antipolis.
Ouais. Enfin, ennuyant, franchement, non. J'étais pas à plaindre. J'étais à Sophia Antipolis, j'étais dans une grosse boîte qui fait du dev, qui travaille pour les compagnies aériennes.
T'es ingénieur informatique ?
J'étais dans une boîte d'informatique et j'étais recruté pour mon diplôme d'ingénieur. Je préférais te préciser parce que ingénieur en informatique, il faut avoir la fibre quand même, le truc. Et je l'avais pas, je suis arrivé, je savais pas écrire une ligne de code. Moi, j'ai appris Word 2 ans avant, quoi. Donc j'étais très très mauvais, mais j'ai appris sur le tard un peu comme ça, et j'ai fini responsable d'équipe à diriger des développeurs quand même.
Ah, tu faisais de l'agile et tout.
Pas encore, c'était les prémices, je crois. Il y avait un mec qui disait, ouais, j'ai entendu qu'aux États-Unis ils font de l'agile, mais c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a 8-10 ans, quoi. Et donc j'ai travaillé dans une boîte d'informatique en tant qu'ingénieur informatique, oui, on va dire, mais vraiment. Qu'il est devenu malgré lui, à force de passer des heures à s'arracher les cheveux sur du code et à se rendre compte que c'était pas trop fait pour lui, mais que...
Et donc il y a eu un déclic à un moment ?
Bah, j'ai commencé le stand-up et la scène, on va dire, un peu comme hobby, en parallèle de mon boulot, c'était un peu ma bulle de décompression. Enfin, on n'avait pas la pression, on était à Sophia Antipolis, il faut se calmer aussi, on était au milieu des arbres, il y avait un barbecue dès le mois d'avril, et ça s'arrêtait en novembre. Et on allait à la plage après le travail, donc c'était pas non plus la grosse pression. Et j'avais la chance, moi, d'aller voir des conférences de veille technologique ou scientifique. On m'envoyait parce que je, sur le terrain, en tant que développeur, je générais des bugs, moi. Donc on me disait, non, mais va voir ce qui se passe, éclaire-nous sur ce qui se fait, sur les modèles mathématiques de prévision, etc. Donc j'y allais. Et donc j'étais pas à plaindre. Donc, non, bulle de décompression. Non, mais c'est vrai que c'était un peu ma bulle anti-bullshit. Mais encore une fois, je respecte beaucoup le métier de développeur. Mais pour moi, ça l'était parce que j'avais pas ce truc-là, en fait, au fond. Et ça me passionnait pas, très sincèrement. Je peux le dire, il y a prescription maintenant. J'ai pendant longtemps dit oui, mais ça m'intéresse, bien sûr. Le C++, c'est super. L'architecture 3/3, j'aime. Mais non, il y a un moment où ça tient plus la route et ça se voit. Donc, mais j'ai fait de la scène le soir. Et pendant les 3 ans, les deux se nourrissaient. C'est-à-dire que plus je performais sur scène et meilleur j'étais au boulot, parce que ça me donnait des espèces de compétences un peu, des soft skills. J'utilise ta langue pour que tu comprennes. Je vois que tu me regardes quand je parle français, donc j'utilise soft skills. Et plus ça marchait au boulot, et plus je me disais, le fait de faire de la scène et faire le guignol le soir, ça n'empiène pas sur mon job. Au contraire, ça me permettait d'avoir des primes, des promotions, etc. Donc du coup, j'ai pris confiance et les deux se sont nourris pendant 3 ans, mais à un moment où tu peux plus, quoi.
Quelle année t'as switché, du coup ?
Fin 2011. Début 2012, j'ai commencé à être humoriste à temps plein. Et puis ouais, fatalement, ça ne pouvait se finir que comme ça, parce qu'il y a du talent, il y a du succès. non, c'est parce qu'il y a un moment où on a envie de se dire, j'ai envie de vraiment me tester, voir ce que c'est que le métier.
Rester focus sur le truc.
Ouais, rester focus, c'est de chercher le mot en franglais. Et donc c'est comme ça qu'à un moment, j'ai craqué, j'ai dit, j'arrête le dev, l'informatique se passera très bien de moi. Et depuis, la boîte va super bien, ils font du chiffre, ils font du gros, ça fond, quoi.
Okay.
On est content.
Alors, on retrouve dans ton évolution une approche qui ressemble beaucoup à une approche un peu start-up, je trouve. Alors, tu vas me dire si j'ai tort ou pas. C'est-à-dire que pour être humoriste, il faut énormément travailler pour trouver son truc. Mmh. Il faut avoir beaucoup d'heures de vol, beaucoup expérimenter pour comprendre ce qui marche pas, trouver de l'articulation dans l'écriture, le rythme dans l'élocution, les pauses, avec le souci d'être en phase avec l'énergie du public et tout. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'image que tu renvoies. Et finalement, c'est un peu comme le Lean Startup, concept que tu dois un peu connaître.
Un peu.
où tu construis quelque chose avec les retours de tes clients ouais. potentiels. Quoi. Donc ouais. ça, l'analogie fonctionne pas mal. Ouais. Alors comment ça se passe, c'est toute cette phase-là de recherche, comment ça se passe en fait le Lean Stand-Up?
J'ai envie de te dire, j'ai l'impression que tu fais du stand-up toi, en tant que start-upper. Ouais. Et non, ça se ressemble beaucoup, c'est vrai. Et je le découvre d'ailleurs, enfin, cette analogie, je ne l'étais jamais vraiment faite. C'est un peu le bourgeois gentilhomme qui dit « Oh, je fais de la prose ». Ça me paraît, j'ai une façon de faire à la start-up, peut-être. Mais je pense qu'elle est oui, peut-être qu'on l'attribue aux start-up, cette façon de travailler, mais elle est d'époque. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont je parle dans mon spectacle, Y, on casse un peu les codes, les cadres, les façons très normées, très... et qui deviennent archaïques de faire avec une hiérarchie, avec des processus de validation dans tous les sens, etc. Là, justement, c'est vrai qu'on a envie de vite savoir si oui ou non c'est bon, si oui ou non on avance, ou est-ce que donc on n'a pas besoin d'attendre 6 mois dans un projet d'informatique pour valider un truc qui en fait n'était pas bon à la base, quoi. Bah, l'humour, c'est vrai que c'est très empirique, donc oui, si tu veux faire le parallèle avec les startups, peut-être que c'est comme ça, mais c'est vrai que j'ai mis longtemps, et j'espère avoir un peu trouvé, j'ai mis longtemps à trouver mon clown, ma façon d'être sur scène, et puis les thèmes que je veux aborder. Et ça touche à l'identité, ça. C'est vrai que j'ai eu un premier spectacle qui s'appelle Melting Pot, qui parlait de mes origines. Donc forcément, on se dit, c'est moi, et c'est un spectacle de présentation, etc. Et donc forcément, c'est moi, je suis dans le vrai. Et ça, je l'étais, mais pas complètement, finalement, parce que j'étais là à me dire, il faut absolument que je parle de mes origines, qui sont un peu singulières aussi. Je suis franco-sino-marocain, donc... Forcément, on se dit, y a un truc à creuser, etc. Et c'était rigolo d'en parler, mais au fond, c'était pas ce dont j'avais envie de parler. Et je parlais déjà de ma reconversion professionnelle, de l'informatique à humoriste, et c'était plus dans ça que j'étais. Mais vu qu'il y avait cette histoire d'identité physique, presque ethnique, qui prenait le dessus, ça faisait un peu d'ombre à ça. Le spectacle a super bien marché, j'ai fait quand même 2 ans, 200 dates au point virgule.
C'était la tendance aussi à cette époque-là.
C'était la tendance, voilà. Mais le fait d'être dans la tendance, c'est déjà que tu peut potentiellement être pas complètement dans le vrai, mais dans une espèce d'imitation ou de vague dans laquelle tu t'engouffres et t'es un peu un suiveur. Et j'invente rien aujourd'hui, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui sur des thématiques autour de la génération Y, autour de, pourquoi pas des startups, autour de la phase nouvelle, ces nouvelles façons de faire qui sont à la fois super intéressantes et que je cautionne, tout comme elles sont risibles dès lors qu'elles deviennent une mode. Et donc tu disais tout à l'heure, j'égratigne la génération Y, j'égratigne les startups, j'égratigne le franglais. L'idée, c'est pas d'être malveillant ou de
c'est mignon, les gratins.
Oui, c'est mignon. Tu as utilisé un terme un peu plus violent. Tu as utilisé, titiller, je crois. Non, mais l'idée, c'est pas non plus de tout le temps mettre des tartes à ce milieu, mais il en mérite dans le sens où très vite, il y a un excès qui s'installe autour de ça, un excès verbal, un excès même de marketing qui se fait autour de ces termes-là et qui mérite en tout cas un petit peu de rappel à l'ordre de la part d'humoristes, de gens comme moi qui questionnent l'évidence en fait. Moi, j'aime bien. Si je devais avoir un intitulé de post sur LinkedIn, je mettrais questionneur d'évidence. Tu sais, t'en as plein des gens comme ça. Il faudrait que je fasse une vidéo.
J'aide les entrepreneurs à questionner leur évidence.
J'aime bien, j'aide les entrepreneurs à questionner leur évidence, c'est ça. Agitateur d'évidence.
tu as dit un truc vachement intéressant, c'est par rapport au marché tout à l'heure. Et je vais encore faire une analogie, c'est-à-dire qu'en fait, avec Melting Pot, tu arrives sur un marché qui est sur une tendance un peu humour communautaire.
Si tu le dis.
Non, à ce point-là, c'est 2012, c'était...
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Jamel Comedy Club, c'était tout le monde qui arrive un par un en
ça,
disant
«
Moi, ma mère,
je suis complètement sans ça. »
Et du coup, finalement, ça devient un marché saturé, où ça devient dur de se différencier. Et du coup, en fait, on dit que pour trouver, en gros, sa bonne audience cible, et quel produit lui présenter avec le bon message, on dit trouver son product market fit.
Ouais, c'est vrai que...
Et moi, c'est un peu l'impression que j'ai, c'est que justement, tu as cherché un product market fit, et que tu as fini par le trouver, en fait. C'est un peu l'impression que j'ai.
Je ne l'ai pas cherché, en fait. J'ai juste, à un moment, je me suis juste dit, est-ce que tu es dans le vrai? Est-ce que tu as vraiment envie de parler de tes origines, etc.? Et il s'avère que oui, ça s'est soufflé. Peut-être que la question est venue parce qu'on sentait un essoufflement autour de ce thème. Et moi aussi, autour de mon spectacle, j'ai joué plus de 1000 fois. Donc, il y a un moment où ça, voilà, j'avais envie d'autre chose. Et donc, je me suis dit, de quoi tu as envie de parler? Mais très sincèrement, je n'ai pas cherché à coller à une cible.
C'était inconscient.
Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, allez. C'est plus parce que Facebook, moi, Facebook, Insta, et Facebook en particulier, j'en ai marre de leur algorithme. J'ai l'impression que plus je poste, moins ça marche sur ce réseau social.
Ouais, c'est comme ça pour tout le monde.
Il est pété, leur truc. Et du coup...
Ils veulent juste que tu payes, c'est tout.
Ouais, mais j'ai pas envie de payer pour qu'on voit mes blagues. Et donc, je me suis dit, tiens, bah, si, je dépoussierai un peu mon compte LinkedIn. Et puis, donc, je me suis dit, bah, je vais mettre les vidéos que je mets sur Facebook, je les mets sur LinkedIn. Et en fait, il y a une résonance sur LinkedIn qui n'y a pas sur Facebook. D'une, à cause de leur algorithme, je trouve qu'il y a un peu plus de viralité.
Oui.
Mais aussi parce que mes thèmes, finalement, ont une résonance chez le public LinkedIn. Mais je ne me suis pas dit, tiens, tu parles de sens au travail, tu parles de ta reconversion, tu parles des startups. Et donc, du coup, tiens, va chercher le public sur LinkedIn. Et il s'avère que oui, bah, c'est là que forcément mes blagues font mouche, plus que sur Facebook. Avec tout le respect que j'ai pour les gens qui font de l'humour plus grand public, et j'en fais en plus, hein, mon spectacle est vraiment accessible à tout le monde. J'ai vraiment veillé à ce que le spectacle soit intelligible partout, et je vais le jouer à la campagne, je vais le jouer partout, et il parle à tout le monde et à toutes les générations, voilà, pas que la génération Y, mais j'ai pas fait ça sciemment, en fait. Et je pense que le micro succès qu'on peut observer sur mes vidéos parfois est beaucoup lié à ça, plus qu'au fait que j'ai intentionnellement fait du product market fit. Je pense que c'est le plus important, c'est la sincérité avant tout. Et après, se dire avec le recul, oui, c'est vrai que je fit à ce marché. Et donc, en effet, maintenant, bah, avec le recul, on peut se dire, oui, bah, pour comment faire les choses mieux, de manière un peu plus rationnelle. Mais je suis artiste avant tout, je suis sur la scène avant tout. Et donc je cherche rarement à dire, tiens, je vais faire telle vidéo, parce que bah, forcément, ces mots-clés-là vont plaire. Je continue à faire des vidéos qui, du coup... Parfois, genre, j'en ai fait une qui s'appelle Happy Collapse sur la collapsologie, etc. Et elle parle indirectement aux gens parce que, sur LinkedIn, parce que les gens sur LinkedIn sont des citoyens, des consommateurs avant tout. Donc, forcément, ils sont concernés par ce thème-là, mais elle a moins marché que la vidéo « Élever son enfant en mode start-up », alors que j'ai pris autant de plaisir à la faire, parce que j'avais envie de parler de ce thème.
Bah, ça, tu vois, là, c'était le mot-clé. Moi, Happy Collapse, je l'ai regardé parce que je voulais savoir toutes les vidéos que tu avais faites,
ouais.
Mais j'aurais pas cliqué dessus parce que le mot-clé me parlait pas, tu vois. Alors que dans le contenu, ouais. Pourtant, c'est intéressant.
Et celle-là, elle a quasiment mieux marché sur Facebook, parce que pour le coup, là, il y a beaucoup plus de groupes de discussion sur la fin du monde, la collapsologie, l'effondrement. Et là, ça a été reconduit, repartagé par des groupes autour de, voilà, Jean-Marc, okay. Jancovici, des gens comme ça. Et donc elle a eu une vie ailleurs que sur LinkedIn. Mais ouais, c'est pour ça qu'il m'arrive de me tromper, entre guillemets, et de ne pas toujours être dans la cible, et heureusement, parce que je ne vise pas de cible. Okay. Mais oui, après, c'est sûr que le succès étant plus palpable sur LinkedIn, c'est plus sympa, c'est plus amusant pour moi aussi, parce que c'est vrai que faire des vidéos et puis pas avoir d'audience, bah, c'est pas rigolo. Là, bah, tu te dis, tiens, il y a un truc, donc après, moi, je vais répondre aux commentaires, bah, je m'amuse en fait.
Et t'as vu l'évolution de ton public ou pas? Est-ce qu'il a changé entre ton premier spectacle et ton nouveau spectacle?
Oui, quand même, oui. Parce que j'étais beaucoup dans cette veine communautaire, etc., donc forcément, j'attirais un public qui aimait bien qu'on parle de ces thèmes-là. Aujourd'hui, ben, ce public m'est fidèle, il me suit, mais il a conscience que j'ai complètement changé de thème, de façon de faire, même la forme a changé, je suis beaucoup plus stand-up aussi. Mais ce public évolue aussi, c'est-à-dire que lui-même se modernise. Aujourd'hui, il y a une émulation dans le stand-up et une offre telle que c'est super, en fait, on grandit ensemble, en fait, les humoristes. Et il y a des humoristes qui étaient très dans ces thèmes-là aussi, qui étaient très, pas communautaires, j'ai pas envie de dire le terme, d'utiliser ce mot parce que c'est pas vrai. On n'était pas dans l'humour communautaire, mais... Vu de l'extérieur, oui, c'était ouais. Tu fais melting pot, tu parles de tes origines 2 minutes, donc ouais, ça a été dans l'humour.
Ouais, j'ai pas vu ton spectacle.
Ouais, mais peu importe, mais
c'était la tendance.
En tout cas, je trouve que les humoristes grandissent ensemble, font grandir le métier ensemble, et le public s'aiguise avec lui, et le public fait grandir les humoristes aussi en les challengeant, en disant c'est bon, ta vanne sur les origines ou même ta vanne sur l'écologie, on l'a vu 15 fois, maintenant voilà, cherche, trouve des trucs un peu plus sympas, et donc le public d'une grandit avec nous et devient de plus en plus exigeant et donc il nous suit, mais le public aussi est de plus en plus pointu. Et donc j'ai un public aussi de plus en plus pointu, un public nouveau qui est sur ces thématiques-là et que je découvre aussi, qui pratique ce langage que je raille un petit peu. Et c'est très sympa, c'est rigolo aussi. Il est drôle, le public LinkedIn ou le public startup. Il y en a qui répondent, qui rient à des vannes sur le franglais en répondant par du franglais. Alors, des fois, c'est volontaire, des fois, c'est pas volontaire. Le public LinkedIn, il est drôle parce qu'il est... j'ai l'impression, enfin, tu me diras, tu le connais mieux que moi, là, c'est ces règles de repartage, etc. Mais il paraît que quand tu commentes une vidéo LinkedIn,
ouais.
Bah forcément, tes contacts le voient, ça touche vachement plus. Et j'y parais, mais je l'observe moi aussi. Et donc, les gens font du placement de produits de manière pas subtile du tout en disant super vidéo, Karim, c'est exactement comme ça que nous abordons le thème chez My Private Coach ou je sais pas quoi. Et c'est, ils arrivent avec leurs gros sabots comme ça, et c'est drôle quoi. C'est drôle et.
Ça m'étonne pas du tout.
Et je trouve ça tellement pas dans ma manière de faire, mais bon, c'est le jeu, c'est un réseau social professionnel, donc tant mieux si ça leur fait de la visibilité. Mais moi, ça me donne envie d'en rire. Forcément.
Alors, j'avais une question sur l'écriture. Parce que il y a évidemment encore d'autres parallèles entre écrire des messages pour dire promotionnels pour essayer de convaincre des gens et écrire un bon segment de stand-up. Et alors je voulais savoir, est-ce que tu avais identifié une recette narrative parce qu'il y a des arcs narratifs. Enfin voilà, moi je suis pas un spécialiste de ça s'appelle de copywriting. Je suis pas un spécialiste de copywriting.
C'est pas du storytelling.
Storytelling c'est encore autre chose.
Apparent.
C'est quand tu pourrais reprendre ton histoire personnelle et mettre des trucs en plus pour valider une crédibilité, par exemple.
D'accord.
Donc, écriture. Est-ce que tu as identifié des arcs narratifs intéressants? Parce que, en fait, je regardais une vidéo d'un mec qui analyse sur YouTube qui s'appelle Nerdwriter, qui analyse une blague de Louis C.K. Ah. Et il explique donc qu'il y a un prémisse, un contrepoint. Il y a la résolution, enfin, c'est bien codifié. Ouais. Est-ce que toi, tu as identifié des formules qui fonctionnent mieux que d'autres?
Très sincèrement, je n'ai pas encore ce recul sur ma manière d'écrire. Je pense que faute de maturité, ça viendra. Alors, il y a une grande cohérence dans mon propos et dans mon spectacle, c'est-à-dire que tu ne vois pas les transitions et vraiment, je t'emmène d'un point A à un point B avec des retours, avec des patterns en trois temps, etc. Donc, les règles de l'écriture, tu les vois. Mais c'est, là, on parle plus de technique d'écriture pour être percutant. Mais pas, j'ai pas de cheminement, de schéma avec des. Je sais pas si Nerdwriter, il arrivera à analyser ce que je fais. Je pense certainement pas, ça le mérite pas encore. Et surtout parce que je suis pas sûr qu'il y ait de construction. Ou alors je le fais malgré moi, encore une fois. Mais j'ai pas cette prise de recul pour te dire oui, j'ai des façons de faire. Ce qui est sûr, c'est que j'essaie toujours de partir de choses pas drôles.
Ouais.
Parce que je suis paresseux, en fait. Et non, et parce que c'est beaucoup plus dur de rire d'un truc. Drôle à la base que d'un truc pas drôle. C'est beaucoup plus de. Enfin, un mec qui marche dans la rue, il peut lui arriver vachement plus de choses qu'un mec qui est tombé. Donc tu peux te moquer du mec qui est tombé, mais il faut faire plus drôle que le mec qui est tombé. Parce qu'un mec qui tombe dans la rue comme ça, surtout si c'est d'une trottinette électrique, moi je me marre avant d'appeler les pompiers.
Que ta situation initiale, elle soit banale.
Soit neutre, elle soit banale ou elle t'ouvre le champ des possibles. Un mec qui tombe, il les ferme un petit peu, il faut redoubler d'imagination pour essayer d'imaginer ce qu'il a pu vivre pour tomber comme ça. Mais avant tout, on se moque de lui, quoi. Et c'est pour ça que je suis pas beaucoup dans l'actualité. Je ne veux pas reprendre l'actu sur Benjamin Griveaux, Balkany, etc. J'en fais très peu de ces trucs-là. Je suis plus dans une analyse de fond, donc j'analyse des phénomènes de fond. Donc j'ai un spectacle plus analytique que storytelling, même si j'en fais deux, trois fois dans mon spectacle, parce que je pense qu'on touche beaucoup plus en parlant de soi, et puis souvent on est un peu égocentré, nous les humoristes, donc on parle de nous. Donc je parle de moi pour élargir, mais c'est peut-être ce genre de schéma que tu verras, plus que des effets de contrepoint ou de situation initiale avec un élément qui vrille, et puis. Je ne dis pas que je ne m'y intéresserai pas ou que je ne devrais pas aller vers ça, parce que c'est vrai que quand tu vois que des Louis C.K. ou autres en parlent, mais je m'identifie plus, alors en tout cas, encore une fois, sans comparer le talent, parce qu'à des George Carlin qu'à des Louis C.K. Parce que George Carlin est beaucoup plus dans l'analyse de tendance, de phénomène. Enfin, il était dans l'analyse de tendance, de phénomène, de pas des généralités, mais c'est le discours sociétal.
C'est vraiment parce que Louis C.K. se revendique vachement de George Carlin, justement.
Oui, il se revendique surtout de lui dans le renouvellement. George Carlin, il disait, mais arrête de t'attacher à ton spectacle pendant 15 ans, comme tu fais.
Ah oui,
lâche tout, page blanche, et repars là-dedans, et tous les années et demie ou tous les deux ans, on ressort un nouveau truc. C'est plus dans ça. Mais oui, après, qui ne se revendique pas de ce mec-là, c'est un génie, bien sûr.
Et à part George Carlin, t'as d'autres modèles?
Pas vraiment. J'admire tellement de monde dans ce métier. J'admire des gens qui ont ce genre de construction. D'ailleurs, j'aime beaucoup des Verino, j'aime beaucoup sa façon de faire. J'aime beaucoup Haroun, qui est plus dans des thématiques sociétales aussi, et qui, je pense, lui aussi, écrit des trucs pas drôles avant d'aller les faire vriller. J'aime beaucoup, beaucoup d'artistes dans ce milieu, et j'aime aussi des gens qui sont pas forcément artistes. J'en ai pas, là, j'ai pas d'exemple à te donner, mais pour rester dans la veine des artistes, ouais, je suis quand même pas mal influencé par les gens qui accordent de l'importance au fond avant la forme, et pour qui le rire est accidentel. Alexandre Astier, en plus, il est lyonnais comme moi.
6-9.
C'est un modèle pour moi, ouais. 6-9 represent. Après, je suis très très admiratif de gens, encore 6-9 represent, de mecs comme Selig, je sais pas si tu connais.
Bah, je connais le nom, mais
ouais,
je
mais moins connu, malheureusement, du grand public, parce qu'il a été moins médiatisé. Mais c'est un mec qui s'est fait, avec le temps et pour le coup, avec l'amour de ses fans. Et donc, c'est quelqu'un qui ne triche pas et qui est très fort en racontage d'histoire, pour le coup, très très fort. Et lui, je pense, si tu l'interviewais, ça le ferait beaucoup rire, je pense, le terme de gros hacking. C'est un mec qui est très simple et qui n'aime pas la sophistication, avec tout le respect que j'ai pour ton métier. il s'est fait avec la légitimité de son public, quoi. Et ça, je trouve ça beau.
Ok. Alors, aujourd'hui, en plus de ta tournée et de ton stand-up, tu as monté une boîte de conseils, c'est ça? Appelée Come and Laugh, est-ce qu'on peut dire boîte de conseils?
C'est pas une boîte de conseils du tout, non.
Tu peux nous en parler? C'est quoi Come and Laugh?
J'ai fondé cette boîte que je ne gère pas, mais qui est un peu, on va dire, aujourd'hui, elle est toute jeune, hein, mais elle gère le volet entreprise de mes activités, parce que, je me suis rendu compte que j'avais une certaine résonance auprès d'un public plus institutionnel ou plus... corporate, on va dire. Et il y a un intérêt, je reçois des demandes, beaucoup de demandes via ça, donc je les fais passer via cette boîte, mais elle a pour vocation, enfin, elle vient, ça vient, et c'est sincère ce que je dis, ça vient vraiment d'un constat, c'est que une personne qui rit est une personne qui a compris.
Ouais, c'est de ce
et moment. C'est vraiment ma tagline.
Ouais.
Et j'y crois beaucoup à ce truc-là, et je me dis, si on peut passer des messages en faisant rire les gens, tant mieux, et les entreprises ont besoin de ça parce que souvent c'est des conventions barbantes avec des PowerPoint horribles.
Donc là tu parles d'événements en entreprise,
donc,
ou tu parles de communication pour une entreprise?
Non, alors ça peut être les deux, et là on est en train d'agrandir un petit peu le champ de compétences de la boîte, mais doucement. Avant tout c'est du stand-up en entreprise, et très sincèrement aujourd'hui c'est moi. Je propose de temps en temps des intervenants, ça c'est pas encore fait, mais j'ai confiance en 2-3 stand-uppers que je me sens bien d'envoyer au casse-pipe, mais c'est un exercice quand même très très casse-gueule. Mais c'est, pour aujourd'hui, c'est moi qui vais intervenir sur des bouts de mon spectacle, mais pas que. Je vais faire du sur-mesure et donc écrire sur la thématique qu'on m'impose et faire des stand-up d'intro ou des restitutions. J'ai fait une restitution d'un TEDx récemment, et je vais sûrement en faire d'autres d'ailleurs, où je fais des blagues sur tous les intervenants qui sont venus, parce qu'il y a un thème qui est central, et puis on essaie de broder autour de ce thème-là ou de faire des vannes sur les gens qu'on a entendus. Donc le stand-up est quand même de plus en plus prisé par les boîtes et l'humour en général, parce que ça fait une bulle de décompression, certes, mais c'est surtout une façon de passer des messages, en tout cas un peu original, très percutante, parce que les gens qui rigolent, ça veut dire que dans la seconde ils émettent un bruit un peu animal pour te dire j'ai compris. C'est un peu le paradoxe de l'être humain, c'est que pour te dire j'ai compris il fait et pourtant c'est ce qui fait le propre de l'homme, c'est ce qui fait même son intelligence par rapport à un veau, quoi.
On en reparlera, mais ça c'est l'activation justement.
D'accord.
C'est au moment où il comprend, en fait.
Le deuxième A, très bien.
Quand, au moment où il comprend, c'est là où il est activé, en fait.
Et après il fait c'est drôle comme nom de podcast. Je vais faire un podcast qui s'appelle PRZ promotion rigueur zygomatique.
Ouais, tu l'as, le nouveau framework.
Donc qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus.
Non, j'étais sur Come and Laugh. Et du coup, je voulais savoir.
Ma boîte, c'est un peu le point d'entrée pour la partie corporate. D'ailleurs, si vraiment les gens m'écoutent et qui veulent me solliciter, n'hésitez pas à écrire à commeandlaugh@gmail.com.
Est-ce que ça ressemble un peu à ce qu'on a pu voir de Thomas Wiesel sur YouTube?
Oui, très sincèrement, je n'invente rien.
Qui fait un truc qui est un peu custom pour la boîte.
Ouais, très sincèrement, je le fais pas aussi custom que lui aujourd'hui, mais je vais vers ça. C'est un de mes grands défis cette année, c'est d'aller de plus en plus vers ça, parce que le plaisir est beaucoup dans l'inédit aussi, et puis ces moments un peu fragiles, surtout dans les contextes dans lesquels il intervient, lui, c'est toujours des trucs. Mais aujourd'hui, je pense que Thomas Wiesel, je ne le connais pas, mais quand tu vois ses vidéos, c'est vraiment, il l'appelle pour leur dire, il l'appelle et ils lui disent, vas-y, mets-nous en plein la gueule et lâche-toi, quoi. Il y va sur les PDG, sur des activités parfois malveillantes de certaines grosses boîtes. Et c'est un gars que, bien sûr, j'aurais pu le citer aussi, que pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de respect et d'admiration. Après, j'ai ma manière de faire qui est différente. Donc ça, c'est le premier volet. Après, je suis sollicité aussi pour des vidéos. Là, pour le coup, je fais vachement plus gaffe parce que je donne pas mon image à n'importe qui. Donc j'ai des projets très choisis. Je peux pas en parler là, mais il y a des vidéos qui vont sortir dans quelques semaines pour une marque, si on peut dire, une institution à qui j'ai dit oui. Mais je peux pas dire oui à tout le monde, sinon c'est un peu c'est la fête à la saucisse. Et donc je peux pas être sponsorisé ou être le porte-flambeau de je ne sais quelle marque ou multinationale, faire de la visibilité pour une start-up, etc. Donc je contrôle vachement ça. Par contre, prêter mon écriture pour des thèmes qui me tiennent à cœur, qui me parlent et faire jouer d'autres comédiens, oui. Et ça, petit à petit. Mais je commence à m'entourer de réalisateurs que j'aime bien, d'équipes techniques aussi qui me plaisent et on commence à faire des trucs sympas. Et donc, pourquoi pas, oui, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de pas juste faire, pas que Common Love, ce soit Karim Duval, loin s'en faut, mais plus d'aller vers une vraie boîte avec plein d'intervenants, plein de productions derrière et m'éclater. Et pourquoi pas plein d'auteurs après, pourquoi pas. Mais, parce que l'activité même d'entrepreneur me plaît. Moi, je pense que je viens du monde de l'entreprise. On parlait de trouver son identité et de l'assumer. Et j'ai mis du temps à me dire... c'est pas si simple que ça, c'est pas humoriste égale sexy égale drôle et entrepreneur ou entreprise égale blasant et barbant, donc non. Et donc je cloisonnais les deux et quelque part ça me dénaturait. Aujourd'hui, je suis sur LinkedIn, je m'en fiche, je le lis, j'ai pas peur. Et j'aime dire ça à mes potes humoristes, ouais, moi je suis pas sur Insta, tu me verras pas sur Insta ou très peu, mais je suis sur LinkedIn. C'est comme ça. Et ils me disent « Ah bon, mais c'est une blague ?» Je dis « Bah non. » Et c'est très bien comme ça.
Du coup, il n'y a pas de branche où tu aiderais des entreprises à changer leur com pour être marrant. Un PDG qui se réveillerait, qui se dirait « Ah, innocents, ils sont rigolos. Si. Moi aussi, je veux être rigolo. »
Alors, si tu regardes, il faut que je mette à jour la description de la boîte. Parce que au début que tu mets des trucs et tu as envie de faire des choses et les choses ne s'avèrent pas forcément simples à faire. J'avais mis prise de parole en public parce que c'est vrai que j'ai déjà... animer des ateliers là-dessus et pourquoi pas. J'aime beaucoup échanger autour de la prise de parole en public, plus que d'être dans une approche très verticale où on dit on prend la parole en public comme ça, en respirant comme ça, en se positionnant comme ça et tout. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Donc j'aime bien répondre aux questions des gens sur la prise de parole en public. Mais au-delà de ça, animer un atelier, ça me plaît, mais j'aime pas parce que ça dure 2, 4 heures, une journée. Et en fait, les gens prennent ce qu'ils peuvent et au final, ils n'ont pas un accompagnement personnalisé, même si j'essaie de les faire intervenir, etc. Donc, j'aime bien l'accompagnement personnalisé. Et donc, oui, accompagner des gens, coacher, j'aime pas le terme, je ne suis pas coach de rien du tout, mais essayer de mieux les connaître pour faire en sorte qu'ils aient que leur naturel puisse s'exprimer, en fait, et pas leur donner du naturel. Leur naturel puisse s'exprimer et la manière d'être drôle fait partie de l'identité et du naturel d'une personne, là oui. Mmh. Donc accompagner un PDG ou quelqu'un qui a besoin de faire un speech, mais par rapport à un objectif concret, j'ai une échéance et tel jour je dois m'exprimer devant 500 personnes et j'ai peur et j'ai envie d'être impactant, oui, et impactant via l'humour, oui, et là pour le coup je peux être co-auteur pour lui et lui écrire des vannes, mais des vannes qui lui vont, et c'est là que c'est un travail vraiment de connaissance de la personne et de vraiment savoir qui elle est pour voir quelle vanne lui va. Moi-même, je fais des vannes des fois très trash et ça ne me va pas en fait. Et je me dis, mais pourquoi tu l'as fait? C'est très drôle, mais ça irait bien dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et très vite, je me dis, mais non, mais sois toi-même. Et c'est un peu ça. Il faut trouver les vannes qui vont bien à la personne en fonction du contexte aussi. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quel moment. Donc voilà, peut-on rire de tout? Ça dépend.
Ça me fait penser au pitch, les pitchs de start-up aussi,
ouais.
Où tu décroches au bout de 20 secondes.
Et en 20 fait, secondes le et, jeu, au bout de 10, et au bout de 10 start-upers.
Ouais, et le jeu, en fait, c'est de trouver les petits éléments qui vont réveiller l'audience et tout. Enfin,
ouais, et tu parlais de schéma tout à l'heure, et je trouve que c'est le conseil que je donnerais aux start-upers, c'est de ne pas suivre de schéma. Parce que beaucoup de start-upers regardent, je pense, ce genre de vidéos, de podcasts, en disant, tiens, il faudrait que je construise mon pitch comme ça, comme ça, comme ça. Mais au final, ils sont tous très formatés, quoi. C'est-à-dire que y a pas de règle en fait, mais t'en vois plein qui parlent du besoin. J'ai été là et j'ai remarqué que il y avait un gros manque au niveau de tel besoin.
Ça commence alors, par une question. Ça commence par une question. Ouais, est-ce que tu as déjà eu ce problème?
Ouais, c'est ça.
Et puis après, fais, pas moi.
Ouais, c'est ça. J'ai une question super importante. Qui boit du café? Et ouais, ça devient un peu. Et ça se voit en fait. En fait, il y a beaucoup ce truc de ouais, il faut imiter les anglo-saxons parce qu'ils arrivent toujours. Ils brisent la glace avec une punchline, une blague. Et très vite, les gens essayent et ils font une blague, mais qui ne leur correspond pas et ça fait flop.
Sans la confiance aussi.
Et sans la confiance. Mais la confiance, elle vient si on est si c'est notre blague, si c'est vraiment notre humour et si on l'assume. Mais si on l'assume pas la blague et on la fait juste parce que c'est bien de faire une blague à tel moment, ben ça marche pas forcément. Donc oui, ça peut servir aux start-upers, ces choses-là. Mais encore une fois, j'aurais rien d'autre à leur dire que essaye d'être sincère, essaye d'être toi-même. Et si tu veux que je t'aide à comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes et te dire tiens, cette blague, je te verrais bien la faire ou pas. Et après, oui, mettre un peu plus de technicité et utiliser des schémas de blagues ou des règles ou des ou épurer un peu les blagues pour qu'elles fassent mouche, ça oui, je peux t'aider. Donc oui, Common Love, c'est aussi ça. Okay. Ce sera ça, petit à petit. Mais pour l'instant, c'est stand-up, vidéo et un peu d'accompagnement.
Alors, je te propose de retourner sur le framework que tu aimes beaucoup, art, avec l'acquisition. Mm-hmm. Alors, déjà, l'acquisition, est-ce que tu fais tout seul ou est-ce qu'il y a des gens qui t'aident?
Je fais tout seul. Non, j'ai la chance d'être entouré par une équipe... une équipe super, mais c'est pas... En effet, je suis un peu autoproduit. Il y a beaucoup de choses que je fais seul. Je pense que c'est un peu ma nature aussi de... un peu... Pas conduire la barque seul, mais de, en tout cas, dire où je veux aller. C'est très Y, c'est très dans l'esprit de mon spectacle aussi, et dans cette identité dont je te parlais, mais on peut rien faire tout seul, bien sûr. Donc je m'entoure des personnes avec qui j'ai construit une confiance petit à petit. C'est pas facile de trouver les personnes à qui on a envie de bosser. Donc, j'ai la chance d'être entouré, bien sûr, d'un super manager, d'une super équipe de presse, de producteurs, exécutifs en tout cas, de tourneurs, de techniciens, et puis maintenant petit à petit de réalisateurs, de chef-op, de monteurs, et j'espère un jour pourquoi pas d'auteurs et autres personnes, et peut-être d'artistes. Oui, je fais tout seul, oui et non. Mais oui, je fais quand même pas mal de choses seul. Après, il m'arrive encore, même si j'ai un manager, il m'arrive beaucoup de gérer mes tournées moi-même parce qu'en fait, ça tombe sous le sens. C'est pas la peine d'aller demander à quelqu'un de lui dire tiens, ce serait bien que tu me prennes tel billet parce que tel jour, ça m'arrange parce qu'avant, j'ai rendez-vous. Ben, je le prends et puis c'est tout. Ça me prend moins de temps de prendre mon billet que d'aller envoyer un mail pour dire quel billet je veux.
Donc, t'as l'opérationnel et puis t'as ceux qui t'aident pour l'acquisition finalement.
Ouais.
Alors c'est quoi les canaux d'acquisition? Donc on a dit les RP.
Les RP.
Les tourneurs, eux, ils se font contacter des fois. T'arrêtes pas
ils
quelqu'un.
Ils se font contacter de plus en plus, mais des fois on me contacte moi et je les renvoie vers les tourneurs. Pour le coup, c'est vraiment une tâche que je délègue parce que c'est les tourneurs dans le spectacle, c'est vraiment des gens qui sont ouais, sur des réseaux centres culturels, salles de spectacle, etc. Et c'est vraiment un savoir-faire, un réseau que j'ai pas du tout.
Donc les réseaux sociaux,
ouais,
tout
beaucoup
ça.
Moi en fait et moi dans la vraie vie. À échelle lyonnaise, parce que je suis de Lyon, pour le coup, je fais beaucoup d'acquisitions, comme tu dis, mais j'en prends conscience maintenant, parce que je vais rencontrer des vrais gens, en fait. Je fais beaucoup de rendez-vous, je bois beaucoup de café, je donne des coups de main de temps en temps à des assos, à des entreprises.
En fait, tu sais que ça fait encore partie d'un truc de start-upper, c'est d'essayer de boire des cafés le plus souvent possible avec des gens un peu venant de tout horizon pour créer des opportunités. Et ça se trouve, tu vas rencontrer des gens. Pour le coup, il y a un peu l'idée de se forcer quand même.
Bah, moi, je ne me force pas, je le fais pas intentionnellement. Je le fais parce que j'aime bien boire des cafés.
Tu es vachement dans le game, en fait.
Ouais, mais je le fais pas exprès. Mais voilà, mais à toute petite échelle. Après, voilà, si je devais le faire ça dans toutes les villes, je serais très, très caféiné. Et puis, il faudrait prendre le TGV pour aller à Lille, à Toulouse, à Marseille, à Paris. Mais on est dans le vrai. Et ça, tu le contrôles. Les réseaux sociaux, moins. Les médias, moins. Mais oui, il faut de tout. C'est un canevas, tout ça. Et là, j'ai lancé un truc, c'est WhatsApp. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo, mais j'ai créé un numéro WhatsApp. Et je demande aux gens, à la fin de mes spectacles, donc des vrais gens, et aussi je l'ai mis sur les réseaux sociaux, mais c'est aux vrais gens surtout que je demande. Je leur dis, j'ai un numéro WhatsApp, je vous le donne, vous m'écrivez. Et je vais commencer à envoyer des messages, mais pas des groupes. L'idée, c'est pas de saouler les gens avec un groupe de discussion à 3000, mais j'envoie via des listes de diffusion 3 à 5 fois dans l'année
mes actus. Donc c'est ta newsletter sur WhatsApp.
C'est une newsletter sur WhatsApp, mais ça ne tombe pas dans tes spams. Il y aura bien sûr une relation privilégiée avec les gens qui ont la gentillesse de me donner leur numéro. Donc c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus direct. Alors je ne peux pas te présager du résultat, mais je sens que ça va marcher. Et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Là, j'ai déjà en un mois et demi, j'ai récolté 500 numéros.
C'est super ça.
Et c'est les gens qui t'aiment et qui transmettent à des gens qu'ils aiment, quoi. Ils envoient pas ça à leur newsletter à eux avec la moitié de gens qu'ils connaissent pas, quoi. Ils vont envoyer ça à des groupes de potes, ils vont envoyer ça au groupe enterrement de vie de garçon, quoi. Tu vois.
Et du coup, les gens, ils te parlent. Ils te répondent.
Ils me parlent. Alors moi, je réponds pas parce que sinon, j'ai du mal à répondre à mes mails privés sur les réseaux sociaux. Donc je réponds pas, mais ils se vexent pas parce qu'ils savent que c'est un numéro pro qui est destiné à ça. J'aurais tout intérêt à répondre, mais franchement, ce serait n'importe quoi. Je partirais dans des.
Et t'avais vu ça ailleurs ou
non.
Initiative perso.
Initiative perso.
Bah ça m'a l'air une super bonne idée.
On verra. Toute la terre va le faire.
Alors c'est peut-être pour. Ah il y a Aline qui est avec nous. Aline qui.
Échappe.
Qui travaille avec Karim sur les relations presse.
Ouais.
Et moi, je me demandais comment on fait pour quantifier les retombées relations presse, en fait, quand on arrive à passer un communiqué ou un truc qui a ramené des spectateurs ou pas. On arrive à le savoir en mouillant le doigt comme ça ou...
La relation presse, c'est un tout. C'est oui, un article, bien sûr, peut avoir son impact selon ça.
Je pense que des fois, tu le vois, il y a un article,
il y a plus de monde qui arrive. Clairement, me disent, on a vu un article dans Télérama, donc on est venu. Ouais. Très sincèrement, ça arrive pas tout le temps, mais encore une fois parce que je suis au début d'un développement aussi, hein, donc y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire et je pense que du coup les attachés de presse s'éclatent à ce niveau-là parce qu'il y a plein de choses à faire. La presse se passe à Paris et je joue de plus en plus à Paris, mais avec ce spectacle et on y va doucement, donc la presse commence à s'intéresser au spectacle petit à petit. Donc les résultats vont se ressentir sur le remplissage, évidemment, mais c'est un peu ingrat par rapport aux réseaux sociaux où tu fais une vidéo et boum, il y a un petit buzz qui se fait et ça réserve tout de suite. Mais oui, il y a un impact lié aux articles, mais par contre, la presse te donne, je pense, te donne de la crédibilité auprès du public parce que mine de rien, il y a des médias qui sont prescripteurs, il y a des journaux qui sont prescripteurs. Donc le fait que tel média ait parlé de toi, forcément, les gens se disent « bah oui, on y va ». C'est cool, voilà, il a été un peu adoubé par la presse. Donc ça apporte ça, un peu de standing, de qualité. Et puis non, c'est un travail d'équipe. Et ça aide aussi. On a la presse qu'on mérite aussi, je pense, petit à petit. Je serais ravi d'avoir une presse qui me correspond et pas être sur tous les médias. Donc moi, je leur dis, non mais m'envoyez pas sur télémission, je serais nul en fait, et je ne sais pas du tout mon public. Donc non seulement je serais nul, et si j'attire des gens juste parce qu'ils m'ont vu à la télé, je ne dis pas que ces émissions viennent me chercher d'ailleurs, ce n'est pas le cas, mais de base, non. Donc c'est aussi un dialogue, c'est un travail d'équipe. Nous sommes dans l'humain, car derrière chaque attaché de presse et chaque professionnel se cache une femme, un homme, et celles et ceux qui nous aident au quotidien. Donc oui, bien sûr. C'est un travail d'équipe, mais c'est un miroir. La presse et les attachés de presse sont un miroir et ils nous aident à définir ce qu'on est.
C'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a encore une autre analogie. En fait, il y a un truc à ne pas faire, et c'est un piège dans lequel on tombe souvent dans le monde des startups, c'est de vouloir toucher tout le monde.
Ouais, mais non. J'ai essayé sur le premier spectacle.
C'est l'erreur de base. Vouloir toucher tout le monde, parce qu'en fait, quand tu touches tout le monde, tu touches moyennement tout le monde, c'est-à-dire personne. En fait.
C'est exactement l'erreur que j'ai voulu faire sur mon premier spectacle en me disant je suis français, chinois et marocain, donc je touche plein de monde. Et en plus, voilà, c'est assez fédérateur, le métissage, etc. Donc aimons-nous les uns les autres. Enfin, je n'étais pas dans ça non plus, je n'étais pas mièvre, mais j'étais un peu dans. En tout cas, de l'extérieur, ça avait un peu cet aspect-là et j'ai essayé d'être grand public. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'humoriste grand public. Ça n'existe plus. Avec Internet, cite-moi un humoriste qui perce aujourd'hui, hein,
non,
qui est grand public.
Non, c'est des historiques, mais c'est pas des.
C'est historique. Le dernier, c'est peut-être Gad ou Foresti. Mm. Mais non, très peu. Il y en a qui arrivent ils ont mon respect. Un Verino va toucher beaucoup de monde, quand même, je trouve, à travers ses thèmes, parce qu'il est très grand public et il arrive à le faire de manière très moderne. Mais généralement, non, c'est que des niches. Et tous les succès se font sur des niches aujourd'hui. Donc vouloir toucher tout le monde, c'est une erreur. C'est une erreur.
Tu pourrais faire du coaching entrepreneurial, là. C'est la règle que quasiment personne ne respecte au début, quoi.
C'est 2000 euros, Camille, dans ma vidéo.
Alors, on poursuit avec l'activation, c'est-à-dire le moment où le client potentiel comprend la valeur ajoutée. Alors, ça dépend évidemment du point de contact. On va commencer par les réseaux sociaux. L'activation, c'est quand quelqu'un il voit ta vidéo et du coup, il se dit j'ai envie de me faire spammer, en fait. C'est-à-dire que je vais aller le suivre parce que je veux avoir ses prochaines vidéos, en fait. C'est ça, l'activation, en fait. C'est le moment où il fait...
J'ai envie de recevoir son truc.
Ouais.
T'as envie de me faire spammer. C'est bizarre comme phrase.
Non, mais c'est ça.
Spam-moi.
Moi, quand je traîne sur YouTube, je tombe sur une vidéo qui m'intéresse, je me dis, ah, c'est bien, je regarde sa chaîne. Ouais. Et après, je dis, vas-y, spam-moi. Ouais. Et je clique sur m'abonner parce que j'ai envie qu'il
spamme. Like, ouais, spam. C'est pareil, moi aussi.
Donc, c'est un peu ça. Et alors, du coup, tu penses que ça se passe à quel moment sur quels critères ça se base, l'activation
des... Ouais, il est activé, je pense, si tu arrives à le faire marrer déjà, parce que c'est le vieil adage. Alors, je ne l'applique pas aux femmes, hein, mais femme qui rit à moitié dans ton lit, je pense que
c'est de l'activation.
Ouais, internaute qui rit à moitié dans ta salle, quelque part.
Donc, c'est ça.
Mais c'est, en tout cas, quand tu es humoriste, voilà, mission accomplie. Si tu as fait marrer quelqu'un alors qu'il est au boulot ou dans le métro, devant des gens qui font la gueule, et qu'il est tout seul devant son écran et qu'il se marre, c'est que déjà, il t'aime un petit peu. Après, il faut. Et peut-être, non, c'est peut-être pas la première chose. La première chose, c'est qu'il faut que le thème lui corresponde, lui parle. Parce qu'il y a plein de choses drôles sur les réseaux sociaux, mais pourquoi il s'arrête sur tel thème? Parce qu'il a vu un mot-clé, parce qu'il a vu.
T'es arrivé à être devant lui, mais ça suffit pas.
Ouais. Il faut que le thème lui parle et que ça le renvoie à son quotidien. C'est marrant, j'ai mis une petite impro là, récemment sur internet sur l'UX Design, et j'en ai mis une 10 jours plus tard sur les achats. Et UX Design a vachement plus marché que les achats. Alors que c'est quand même deux. Tu te dis, les achats, c'est quand même un job très répandu. Mais alors,
c'est le mot-clé.
Les gens sont. Ouais.
J'ai vu UX Design, j'ai cliqué dessus.
Donc, c'est vachement tech, etc. Donc, LinkedIn est quand même pas mal là-dessus. Et j'ai pas fait exprès, mais je pensais qu'achat marcherait plus parce que c'était plus grand public. Mais non, tu vois, on est sur du très, très pointu. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Mais par contre, les gens ont vu UX Design et expliquent ton job au-dessus. Ils se sont dit, putain, mais voilà, c'est mon quotidien. Il faut que j'explique ce que c'est à ma grand-mère, à ma tante. Et elles comprennent pas. À Noël, je suis largué et j'en ai marre. Avec mon oncle plombier, lui, il galère pas. Et donc forcément, ça les renvoie à ça, donc j'ai envie de dire identification, donc tu peux ajouter un I à ton A, et ça fait Ayar, un I, et un amour, amour, en tout cas j'ai ri, je t'ai aimé un peu, donc voilà.
Et ok,
donc,
cool.
Je pensais ça, je sais pas.
Ah non, c'est très bien. En ce qui concerne la rétention, donc bon, t'as inventé un nouveau moyen de rétention avec WhatsApp. Mm-hmm. On parle souvent de rétention client, donc là c'est quand les gens qui ont payé vont revenir voir un nouveau spectacle. Mais dans une stratégie un peu sociale, c'est juste retourner régulièrement, se rappeler aux bons souvenirs des gens, voir les nouveaux contenus, tout ça. Parce que finalement, entre ton premier spectacle et ton deuxième, il s'est passé pas mal de temps. Donc finalement, toi, ce que tu dois faire, c'est un peu construire une communauté, en fait.
Ouais.
C'est un peu ça ton moyen de rétention.
Je le fais pas sciemment, mais en tout cas, petit à petit, une petite communauté se crée. Et mon moyen de rétention, c'est de créer, en fait, c'est de faire mon boulot. C'est-à-dire créer et pas chercher à créer une communauté.
D'accord.
Mon boulot, c'est de créer du contenu. C'est pas,
oui, c'est ça, c'est une stratégie de contenu, en fait.
C'est d'exprimer mon plaisir de faire rire à travers différents supports. La scène, d'abord, et puis les vidéos. Les vidéos, après, l'avantage, c'est que c'est du jetable, c'est court, et puis on peut en faire plein sans griller le spectacle, qui est une espèce de vieille machine qui met du temps à se mettre en place et qui dure des années, etc. Chose que les gens ont du mal à concevoir. Ils viennent te voir et te disent « Bon, mais c'est quand le prochain ?» Tu dis « Mec, j'ai mis un an sans date à roder un spectacle pour que ça te fasse rire. Laisse-moi profiter un peu. » Donc je crée du contenu, en fait. Je crée du contenu et j'espère que, malgré moi, cette communauté se maintient. Après, je crée du contenu autour de ce que je sais faire, ce que je suis, encore une fois, et donc c'est fidèle à ce que je suis, et donc derrière, c'est fidèle à ce que les gens aiment, et c'est peut-être fidèle à ce qu'ils sont aussi. Donc on avance comme ça, et j'espère, petit à petit, j'espère grandir aussi, évoluer, et pas toujours être dans les mêmes délires, mais qu'il y ait une espèce de glissement tous ensemble, et qu'on vieillisse ensemble avec la communauté. LinkedIn, bientôt, on se retrouve à la retraite, et on parlera de déambulateur, bien sûr.
On parle pas stratégie, parce que tu fais ça naturellement. C'est pas vraiment une stratégie, juste tu crées du contenu. Est-ce que tu t'imposes une fréquence de publication ?
Je me l'impose et je la respecte jamais. Et pourtant, je serais capable parce que j'ai tellement de trucs, j'ai une liste d'idées de vidéos que j'aimerais faire, mais honnêtement, je peux pas. Je suis père de famille, je joue sur scène, j'ai un spectacle ici, je suis en train de monter un spectacle au Maroc, j'ai une boîte, je fais peut-être trop de choses. C'est peut-être un défaut. Et d'ailleurs, les coachs me diraient, non, mais reste focus sur un truc et tout. Mais j'arrive pas. Maintenant, je pense que mes années commencent à se ressembler. J'ai une période de pic entre octobre et mars-avril où je joue beaucoup, je fais beaucoup de choses. Et une période plus calme de mai à septembre où je suis plus cool et là où je pourrais avoir une meilleure fréquence.
Ouais, créer du stock peut-être
et non, pas créer du stock, ça marche pas en fait.
Ah, ça marche pas.
Ça marche pas parce qu'il faut le tourner le stock. Et je stocke des idées, j'ai déjà des vidéos, j'ai l'angle, j'ai les vannes, j'ai tout. Il faut les écrire, les mettre en forme, les tourner, les monter. Je fais tout ça, je le fais moi-même et je peux le faire que moi-même. Et ça viendra. Donc peut-être que j'arriverai à avoir une fréquence, mais sur certaines périodes de l'année. Mais même déjà une par mois, c'est difficile. Même si je sors des vidéos délire, après, tu vois, des petites vidéos de promo ou des impros ou des petits trucs comme ça, je prends mon téléphone et je fais ça. Je devrais peut-être aussi être un peu en lâcher prise par rapport à ça et sortir plus de contenu avec des trucs plus travaillés comme les vidéos que tu vois passer sur Happy Collapse ou le Chief Happiness Officer ou trucs comme ça qui sont plus écrites, plus tournées avec de jolies images qui me demandent du travail, qui me demandent 2-3 jours de travail. Et puis des trucs plus comme ça, quick and dirty, comme on dit.
Est-ce que, du coup, tu as une vraie newsletter en plus de WhatsApp ou pas?
J'en ai une, mais j'arrête de m'en servir. Parce que les gens me donnent vachement plus leur contact sur WhatsApp, leur numéro WhatsApp,
que
leur email. Donc je vais aller vers ça. Et c'est peut-être une grosse erreur, parce que je sais qu'on dit le newsletter, c'est le nerf de la guerre. J'ai du mal à l'expérimenter moi-même. Et c'est beaucoup d'énergie de demander le mail aux gens. Alors que leur dire de t'écrire moins. Et j'en envoie une de temps en temps, mais ouais.
Tu t'en sers pas pour relayer tes vidéos? Tu vois, notamment sur YouTube.
Si je les mets quand j'envoyais ou quand j'envoie des newsletters, je mets la dernière vidéo, c'est celle-là, bien sûr.
Ah oui, donc c'est quand tu fais une newsletter que tu mets la dernière vidéo. Mais
ouais.
Tu fais pas une newsletter pour une vidéo?
Non, mais j'ai très peu de contacts, hein. Je dois avoir, je sais pas, 300 personnes sur mon newsletter, c'est rien. WhatsApp, déjà, j'ai plus de monde en un mois et demi sur WhatsApp qu'en une vie.
Et t'envisages de relayer tes nouvelles vidéos sur WhatsApp ou pas?
Ouais, c'est possible, mais j'ai promis aux gens de ne pas les saouler, donc je ne le ferai pas toujours.
Mais en même temps, une par mois, ça va?
Une par mois, pourquoi pas, mais il faudrait que je demande aux gens de me dire la fréquence avec laquelle ils voudraient, etc. Mais pour l'instant, pour rassurer les gens, je leur dis, ouais, je ne vous saoule pas plus de 3-5 fois par mois. Par contre, si je fais un mail, je ferai un mail groupé en disant, pensez à regarder mes vidéos, etc. Je devrais peut-être. En avant-première, pour les gens qui vraiment aiment,
ouais.
On va peut-être dire, voilà, si vous êtes VIP ou premium et vous voulez vraiment, vous êtes prêt à être saoulé 2 fois par mois, n'hésitez pas et je vous enverrai mes vidéos. Parce que ouais.
Moi, je suis pas tout tes spectateurs, mais si je t'ai donné mon numéro de téléphone, tu peux bien m'envoyer ta dernière vidéo une fois par mois, quoi.
Ouais. Bah, en tout cas, je peux envoyer de temps en temps ma dernière vidéo et.
Parce que l'algorithme YouTube, en fait, il joue beaucoup sur le début.
Ouais.
Et en fait, plus tu as de monde qui va regarder au début, et plus il va se dire, ah, c'est intéressant, je vais le montrer aux autres.
Ouais, c'est vrai.
Enfin, voilà, c'est le truc qui peut être utile.
Je prends et je te rends les 2000 balles que je t'ai pris.
2000 balles, Camille. Alors, sur Instagram, les codes de la plateforme nécessitent de montrer plus de vie privée. Montrer un peu les coulisses, l'envers du décor. Est-ce que, du coup, tu arrives à trouver un équilibre entre montrer un peu pour connecter avec la communauté sans trop dévoiler ta vie privée, comme certains influenceurs font? Alors, je sais que c'est un truc aussi générationnel. Je pense que tu es d'une génération qui n'aime pas spécialement montrer sa vie privée sur Instagram.
Bah, je suis une génération qui aime bien le faire, mais je suis du début de cette génération-là. Donc, je suis né en 81, et donc les vieux trentenaires, quasi 40, dévoilent moins leur vie privée. Après, sans parler de parler de vie privée, je suis très très mauvais élève sur Instagram et je suis un très mauvais élève en termes de story et en termes de dévoilement de mon quotidien. Sans parler de vie privée, c'est ne serait-ce que parler de ma vie en tournée. Mmh. Pourtant, j'ai tellement de blagues qui me viennent et je pourrais tellement faire des blagues là-dessus. Ne serait-ce que faire un selfie à chaque date que je fais et un post à chaque date. J'essaie d'en faire, mais j'en fais. J'ai pas envie, sans prétention, je joue énormément et j'ai une vie artistique très pleine, aussi petite soit-elle. Je joue quasiment tous les jours, je pourrais très bien parler, montrer les coulisses, etc. Et je sais que je perds beaucoup de followers comme ça, mais j'ai pas le réflexe, c'est parce que j'aime bien être dans le vrai, et puis ça me saoule en fait de prendre mon téléphone et toujours dire salut, je suis là, regardez ce que je mange, etc. Ou même parler des coulisses du métier, ça me saoule et ça me. Ouais, je perds des fans. Et je sais que mon attaché de presse et conseillère en story m'en veut beaucoup à ce niveau-là. Mais les gens qui sont beaucoup là-dessus et font beaucoup de stories, publient beaucoup, alors soit c'est des bourreaux de travail et je travaille pas encore assez, et c'est vrai. Soit ils ont moins de choses à côté. Et moi, c'est vrai que j'ai une partie pas visible. Tu as la partie entreprise qui prend beaucoup de temps. Et, Et puis je joue sur le tableau marocain aussi, j'ai un spectacle pour le Maroc, et c'est beaucoup de travail aussi, tu vois, typiquement, donc tout ça.
D'accord, donc tu sais ce qu'il faudrait faire, mais c'est juste que... Et pour les gens qui sont venus te voir vraiment en spectacle, est-ce que tu as développé une technique spécifique de rétention? Alors, je prends l'exemple de Kayron, parce que, en fait, je sais qu'il fait un truc, en fait, il fait passer du papier à la salle, et les gens doivent mettre leur email, je crois. Et en fait, il dit, bah voilà, je vais tirer au sort des emails, et vous allez recevoir des places gratuites.
Bah, je devrais le faire maintenant avec WhatsApp, mais il a tout à fait raison de le faire.
Il ne le fait plus,
il n'a plus besoin. Ouais. Mais c'est une très bonne technique et je ne perdrai rien à le faire, moi. À dire, voilà, si vous me donnez votre numéro WhatsApp, je tire votre numéro au hasard et je vous donne deux invites. Même si, ouais, souvent, on n'a pas besoin de mettre des invitations, mais c'est vrai que plus dans un rôle de rétention, comme tu dis, et de pour générer du bouche à oreille, c'est pas mal. Il dit si vous amenez quelqu'un avec vous ou si vous amenez cinq personnes avec vous.
Non, même pas, c'est même pas ça.
Il invite la personne à vie à chaque fois qu'elle vient avec quelqu'un.
Ah oui, d'accord. Mais comment tu sais qu'elle vient avec ce quelqu'un et tout, en fait, les gens, ils respectent.
Je ne sais pas comment gérer ça derrière, mais en fait, il donne le mail. Après, je choisis effectivement quelqu'un. Et cette personne, elle peut revenir 10 fois voir le spectacle. D'accord. Parce qu'en plus, Kayron, c'est beaucoup d'impro. Donc, ça change,
ouais, donc ça change
régulièrement. Mais,
c'est pas mal.
Et du coup, la personne peut revenir 10 fois, 20 fois. Et à chaque fois qu'elle amène des gens, et ben...
Mais ça crée de la rétention comme ça. Ouais, c'est une super idée. Mais je note.
Après, tu vois, contrairement à ce que tu as fait avec WhatsApp, quand tu dis aux gens, bah, si vous voulez que je vous spam, donnez-moi votre numéro, là, tu es sûr que tu n'as que des fans hardcore qui donnent ton numéro. Alors que si tu dis, donnez-moi votre numéro et je vais tirer au sort et je donnerai des places, tu perds au niveau de la virulence, tu vois.
Ouais,
et du coup,
Alors que le mail, tu peux plus te le permettre.
Ouais. Donc, on va arriver à l'étape la plus importante pour un humoriste, enfin, de ce que j'ai cru comprendre, c'est le bouche à oreille. C'est la recommandation, donc. Arrives-tu à mesurer la part de bouche à oreille dans les gens qui viennent te voir?
Oui, et c'est marrant parce qu'elle est encore assez faible. Ça doit être entre 10 et 20%, je pense. Ça dépend où. À Paris, vu que je joue moins et qu'il y a, il se passe un truc marrant à Paris en ce moment. Je joue peu, mais il y a une bonne dynamique. On est complet à l'avance, etc. Où il y a pas mal de bouche à oreille. Je dirais que c'est le tiers qui fait du bouche à oreille, peut-être. Puis parce que je donne des rendez-vous, voilà, c'est rare que le mec se dise, tiens, qu'est-ce que je fais à telle date dans 3 mois, quoi. Donc c'est forcément des gens qui m'ont recommandé. Après, je mesure le... Non, mais je te dis 10 à 20%, mais c'est les gens qui directement ont été les oreilles d'une bouche. Elle est bizarre, ma phrase. Mais t'as compris. Hein, que t'as compris. Parce que je suis un mec sain, sinon. Mais, par contre, ces personnes-là viennent avec des fois 2, 5, 10, 20 personnes. Et donc, l'impact, il est vachement plus grand que je n'imagine. Donc, ouais, il y a du bouche à oreille. Et il y en a d'autant plus sur ce spectacle parce qu'il y a de l'impro, parce que je suis vachement plus proche du public. Et moi, je le fais pas de manière intéressée, mais mon job n'aurait pas de sens si je jouais et que je me cassais comme un voleur. Donc, moi, généralement, je fais 1 heure de show et 2 heures d'after. parce que j'aime bien aller, je dis aux gens, ben, retrouvez-moi au café d'en face ou j'ai envie de vous voir. Moi, j'ai parlé de moi pendant une heure et demie. C'est bizarre comme dialogue quand même. Donc, j'ai envie de savoir. Ce que font les gens, donc j'essaie de prendre le temps, j'essaye, parce qu'après les gens, il y a 100, 200 personnes qui viennent, tu peux pas non plus dialoguer avec tout le monde jusqu'au bout de la nuit, mais au moins...
Tu fais inconsciemment,
ouais, et
tu
ça,
fais inconsciemment tous les trucs qu'il faut faire en fait, c'est-à-dire qu'en parlant avec tes clients, bah, tu sais exactement, tu arrives à les cerner mieux, savoir quelles sont leurs attentes.
Oui. Et ils me donnent des idées de vannes des fois, et des fois il y a des trucs qui tombent. Là j'ai une vanne que j'ai envie de mettre dans mon spectacle, la dernière fois je suis allé dans une ville plutôt âgée, tu vois. À Gébourges, donc sur la génération Y, et je parle des baby boomers, donc l'époque des 30 glorieuses, l'insouciance. Et il y a une dame qui vient me voir, elle me dit : mais nous, à l'époque, on mangeait, on fumait, on buvait, on forniquait, et on savait pas que c'était dangereux. Et je trouve ça génial, cette phrase. Tu peux pas l'inventer, tu vois. Et ça, c'est pas des vannes, tu vois, c'est des phrases. Et ça, tu vois, tu le remets dans le spectacle, et boum, ça marche. Donc je vais la tester, tiens, ce soir. Mais en tout cas, je l'aime bien, parce qu'elle elle te dit beaucoup de choses sur l'époque. Donc, ça nourrit du bouche à oreille et du public, mais ça te nourrit artistiquement, bien sûr.
Est-ce que tu sais les arguments qui sont avancés entre une bouche et une oreille, qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils te recommandent? C'est quoi qu'ils mettent en avant?
Ça, si je pouvais savoir, souvent, je suppose que c'est ce que je vois, moi, des critiques. Et j'espère que c'est ça, mais c'est souvent, je le dis pas moi, c'est les gens qui disent « Enfin, un spectacle drôle et intelligent » ou avec du fond, c'est pas
si c'est des journalistes qui ont écrit,
ça va te parler.
Ça peut être biaisé.
De plus en plus, c'est, tiens, ça va te parler. Si c'est des journalistes, c'est autre chose, ouais. Mais les gens, c'est souvent, tiens, vas-y, tu vas voir, c'est trop toi.
Ah, tu parles des feedbacks du coup sur
des avis tags, sur les tags aussi. Les gens, c'est putain, viens, on y va, c'est trop nous.
Ok.
Tu vois, viens, tu vois, moi j'y retourne, tu vois, parce que c'est trop moi. Ou, mais c'est souvent, ouais, encore une fois, l'identification. Et j'ai ri, quoi.
Alors, dernière question sur la recommandation. Est-ce que tu as envisagé de faire des programmes spécifiques, un peu style à la Deliveroo, où tu vas dire, voilà, pour une personne parrainée, je vous offre tel truc ou truc comme ça?
Alors, pas en offrant des places ou des entrées à mon spectacle, même si ça peut m'arriver, mais j'offre des places souvent aux gens que je rencontre dans la vraie vie, encore une fois, parce qu'on a un vrai échange. Je pense qu'il y a une notion de désirabilité chez l'artiste qui fait qu'on n'est vraiment pas non plus des produits à part entière, et que tu peux pas non plus dire je t'offre un goodies ou je t'offre une place. En tout cas, tu peux le rendre systématique, et c'est aussi montrer que tu es un peu en galère quelque part, tu vois.
Ouais.
Parce que contrairement à Deliveroo, ils ont une infinité de repas à livrer. Nous, on a une place limitée de places à vendre. Si on offre quelque chose, c'est que on nous a pas vendu toutes les places, quoi. Mais même si je suis complet assez souvent, quand je suis pas complet, je préfère ne pas être complet, mais avoir que des gens qui sont engagés, qui ont dit je paye ma place pour être là et j'ai vraiment envie de le voir, plutôt que je suis venu parce que c'était pas cher. Il y a un truc, c'est Billets Réduc. Alors c'est un site où il y a des réductions, mais ça c'est différent, c'est normal d'avoir des réductions, des prix d'appel, pourquoi pas. Mais il y a un truc, ça c'est quand tu commences vraiment, t'as personne dans ta salle et tu sais que t'as un journaliste, et quand t'es en détresse, t'as peur, tu dis allez, on active Billets Réduc gratuit. C'est méchant de dire ça, mais c'est un ramassis de cafards, ce truc-là. Oh là là. Quand tu mets les places gratuites sur Billets Réduc, ta salle, elle se remplit en une demi-heure. Mais derrière, public, qui rit pas engagé, mais qui... Ils payent pas, ils s'en fichent, en fait. Ils s'en vont au milieu du spectacle. D'ailleurs, il faut que ce soit le bon plan parfait. C'est comme souvent OVS ou les trucs comme ça, ou Groupon. Non seulement, il faut que ce soit pas cher du tout, mais en plus, il faut que ce soit le plan du siècle. Parce qu'en fait, après, les radins entre eux, ils se parlent, tu vois. Et ils kiffent à se dire, ouais, regarde, moi j'ai eu un truc gratuit, en plus c'était trop bien, tu vois. Donc si le truc était gratuit mais qui n'était pas à leur goût, c'est généralement beaucoup de gens ont mauvais goût.
Ils vont te mettre un avis de merde derrière.
Ils vont te mettre un avis pourri. Donc en fait, tu vois, ça va pas forcément dans le bon sens. Non, moi ce que j'offrirais aux gens, et encore une fois via WhatsApp, c'est plus un accès un peu premium à la vie d'artiste. Tu vois, moi, comme je te disais tout à l'heure, je le partage pas beaucoup sur Insta, etc., à tort. Les coulisses du métier. Par contre, montrer la genèse d'un spectacle en allant jouer dans des lieux un peu alternatifs, des coworking, des bars, chez les gens, tu vois, et leur dire, si vous me suivez ou si vous partagez à tant de personnes, je viens faire une lecture de mon nouveau spectacle chez vous ou dans votre tiers-lieu préféré. Parce qu'au départ, tu peux en effet être gratuit dans le sens où ton truc il n'est pas prêt. Et donc tu peux ne pas faire payer la place parce que ton spectacle il t'a pas encore fourni le travail nécessaire pour qu'il mérite salaire entre guillemets, et par contre en échange les gens ils viennent, ils donnent ce qu'ils veulent ou ils donnent rien, mais ils te donnent du retour, ils te donnent vraiment des rires ou des pas rires, et ça c'est une vraie audience, ça n'a pas de prix, tout le monde est gagnant, et ça oui, ça je compte bien le faire.
Ok, très bien. Alors c'est quoi la suite pour toi? Alors tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais dans quelle direction tu aimerais aller par la suite?
On ne sait pas de quoi est faite la vie, parce que peut-être que demain je peux avoir le coup de cœur pour la plongée sous-marine et te dire j'arrête tout et je vais faire de la plongée sous-marine. Peut-être ça peut arriver, donc ça on n'est pas à l'abri de ça. Aujourd'hui, avec le plaisir que j'ai à faire ce métier et à essayer de grandir à mon échelle, j'ai envie de te dire si, mon but ultime c'est de faire du stand-up jusqu'à la fin de ma carrière, la fin de mes jours, quoi. Aujourd'hui, hein, voilà, si par rapport à mon ressenti aujourd'hui, la mesure du succès, ce serait de me dire, tiens, sur mon lit de mort, j'aurais dit, tiens, j'ai fait du stand-up jusqu'à très tard et j'étais encore d'actualité de mon époque et j'arrivais à quand même faire rire des gens. Ça, ce serait cool. Donc ça, c'est la finalité, c'est pas d'être célèbre ou autre. La célébrité pouvant aider à ça. Mais donc le stand-up et la scène et toujours être capable d'être créatif en créant du contenu qui plaît quand même et qui est sympa et moderne et dans l'air du temps, ça c'est mon objectif. Ça, pour pouvoir le faire, il faut un peu de succès, il faut une santé mentale, physique bien sûr, mais aussi financière pour le faire. Donc, pour s'offrir cette liberté de créativité et dire, ben voilà, parce qu'il faut un lâcher-prise énorme. Tu peux pas écrire en disant, mince, il faut que je mange. Tu peux pas écrire un spectacle en disant, tiens, il faut que je sorte un nouveau spectacle parce que sinon je vais m'essouffler, je vais plus être intermittent du spectacle, je vais plus pouvoir bouffer. Ça, c'est aller vers l'échec. Donc, pour ça, il faut en effet s'offrir une santé financière en faisant des choses un peu moins artistiques peut-être. Et donc oui, avoir une boîte à côté où accessoirement on s'éclate et on fait des choses où c'est, oui, on va l'avouer, un poil plus matériel, même si sur des sujets comme l'intelligence artificielle ou l'agilité, il y a quand même moyen de faire des trucs drôles et artistiques. Et ben oui, ma boîte, c'est quelque chose que j'ai envie de faire grandir, mais aussi pour le kiff de me dire, j'ai monté une boîte et je l'ai fait grandir en me faisant plaisir. J'ai créé de l'emploi, tu vois, là, la boîte, elle embauche, donc c'est cool, on crée de l'emploi, on crée des rencontres. Et moi, je suis souvent, j'ai du mal à me réjouir d'un événement en soi, tu vois, il m'arrive de faire des jolies salles où j'espère et que je ferai de très belles salles, tu vois. Mais je sais très bien que je serais très content et très heureux, très fier de les faire, mais je ne serais pas dans la fierté d'avoir fait ces salles, mais dans le coup d'après, de ce que ça va m'amener.
Est-ce que tu as des livres, des films, des personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent? Alors, ce n'est pas forcément la biographie de Steve Jobs, hein. Ça peut être La Grande Vadrouille ou Scarface.
Je ne suis pas un grand cinéphile, donc je n'aurais pas de film à te recommander comme ça.
Des bouquins, je ne sais pas. Les trucs qui t'ont marqué quand tu étais peut-être plus jeune ou...
En tant qu'artiste, moi, c'est marrant, mais la veille de l'écriture de mon premier sketch de ma vie, mes premières vannes qui valaient ce qu'elles valaient, j'avais lu L'écume des jours de Boris Vian.
Ouais.
Et ouais, c'est un livre, c'est un centralien, c'est un ingénieur, mais artiste, qui est devenu artiste, qui a toujours été d'ailleurs les deux, lui. Mais qui arrive à mettre une quantité d'émotion dans ses écrits et de la poésie mêlée à la limite de la technologie qui est absolument géniale, qui moi me touche, tu vois. Moi, tu vois, j'ai lâché un like, Boris Vian, s'il avait une chaîne YouTube, mais je sais pas ce qu'il fait. Et donc L'écume des jours m'a beaucoup, pas inspiré, mais elle m'a mis dans une espèce de mood créatif. Il s'est passé un truc. J'ai découvert cette folie-là de...
C'est L'écume des jours qui a déclenché l'écriture, non, ou l'écriture non, était mais, déjà prévue?
Non, l'écriture était déjà prévue, honnêtement, parce que je faisais déjà du théâtre depuis un mois ou deux et je savais que j'allais commencer à écrire, etc. Je commençais. Mais le fait d'avoir lu ce livre, ça m'a mis dans un... Ça ouvre les chakras, ça ouvre le champ des possibles. Donc c'est chouette. Moi, je lis pas mal de romans, en fait, plus que des essais. Donc là, j'ai lu La vie devant soi, pareil, grosse claque. Et je pense que ça me... fait un peu le même effet que L'écume des jours, mais avec ma maturité d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus dur, beaucoup plus épais comme écriture, mais à la fois poétique, drôle, triste. Mais c'est un tas d'émotions assez extrêmes et mises sous une forme nouvelle et forcément impactante. Hein. La vie devant soi de Romain Gary, Émile Ajar, c'est une punchline quasiment toutes les phrases. C'est des phrases qui t'en mettent, mais c'est une claque à chaque phrase, quoi. Et c'est un roman. C'est absolument merveilleux. Sinon, dans les essais, il y a un livre que j'aime bien citer, quelqu'un que j'aime bien citer, c'est André Stern. C'est un mec qui se présente comme l'enfant de 48 ans qui n'est jamais allé à l'école. C'est un mec qui n'est jamais allé à l'école et que les parents ont laissé grandir et s'éduquer tout seul, un peu comme ça. Enfin, ils n'ont jamais fait l'école à la maison et ils ne lui ont jamais dit « viens manger » ou « va te coucher ». En fait, il s'est régulé tout seul et il prône l'apprentissage par soi-même, par le jeu, naturel en fait. Et c'est vraiment quelqu'un de super. Et il a un livre qui s'appelle Jouer, qui est extrêmement beau, qui parle justement de l'apprentissage naturel. Et finalement, quand tu retiens, quand tu vois ce qu'on a retenu de toute notre éducation et notre chemin scolaire, c'est finalement ce vers quoi on allait naturellement. Et ça rejoint encore cette idée d'identité, etc. Et je trouve ça assez joli, j'aime bien cette idée.
Ok, super. Bon, merci beaucoup, Karim Duval.
Merci à toi.
D'avoir accepté mon invitation et de parler de sujets. Qui finalement, tu vois, les analogies fonctionnent plutôt correctement sur pas mal de sujets, mais qui n'étaient pas évidentes. Donc merci beaucoup d'avoir accepté. Et puis bonne chance pour la tournée, pour la suite.
C'était un plaisir de discuter avec toi en tout cas.
À bientôt, salut.
Merci d'avoir écouté cette interview. Si ça vous a plu, rendez-moi un petit service, ça vous prendra 10 secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Tous les détails de l'épisode sont à retrouver sur mon blog, yannleonardi.com. J'ai aussi une chaîne YouTube où je réalise des études de cas marketing. Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite, alors inscrivez-vous à ma newsletter pour être averti et pour recevoir des conseils marketing et des ressources en exclusivité. À bientôt, ciao !